Et on va commencer par les résultats sur la scène nationale et internationale avec d'abord du football. Michael Juneski, les Bleus sont en forme. Ils ont décroché une nouvelle victoire en match de préparation à la Coupe du Monde face à la Colombie.
Exactement, après le succès contre le Brésil, c'est une formation complètement remaniée qui a décroché une nouvelle victoire contre les Colombiens. La Colombie, 13e nation au classement FIFA. Les tricolores l'ont emporté aujourd'hui sur le score de 3-1. Un doublé de Désiré Doué, un but de Marcus Thuram sur une belle tête. Preuve qu'il y a donc du potentiel aussi avec une équipe B pour aller au prochain mondial. Didier Deschamps va se servir de cette expérience pour peaufiner sa liste en vue de la Coupe du Monde. On écoute le sélectionneur de l'équipe de France.
C'est bien, il y a de la ferveur et c'est bien pour les joueurs. Ça nous a permis de faire deux répétitions de très bonne qualité. J'ai des convictions, je n'allais pas me demander la liste aujourd'hui. L'objectif, ça sera, comme je l'ai déjà dit, qu'on puisse avoir trois options à chaque poste. À partir de combien de joueurs on pourra l'avoir, ça dépendra. Mais évidemment, vous allez, même si vous allez jusqu'à 26, il y en a une bonne vingtaine, donc c'est plus que 20, qui, s'ils n'ont pas de soucis physiques, seront là.
Et il faudra encore patienter. La liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde sera annoncée seulement au mois de mai, avec, vous le savez, encore les fins de saison pour les clubs qui peuvent réserver leur lot de surprises. Mais avant la Coupe du Monde aux Amériques, le camp tricolore peut déjà compter sur de nombreux joueurs à tous les postes, ce qui va compliquer évidemment la tâche du sélectionneur.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14, à vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le dernier choc de la 20e journée de Top 14, c'était ce matin et le Stade français décroche une large victoire sur Clermont.
Un score sans appel, 64-20. Les Parisiens ont dominé la rencontre pour l'emporter contre un adversaire direct aux phases finales. Avec ce succès, le Stade français grimpe à la 3e place du championnat de France. On rappellera du week-end la large victoire du leader, Toulouse, sur son dauphin au début de cette 20e journée. Montpellier, victoire du Stade toulousain 45-29. Perpignan s'est imposé sur le RC Toulon 36-20. Castres a battu la Lanterne Rouge. Montauban 49-17. La section paloise a renversé la vapeur pour l'emporter face au Racing 92, 27-17. Bayonne a battu La Rochelle 26-15. Un seul succès à l'extérieur ce week-end, l'Union Bordeaux-Bègles qui est allé l'emporter sur le terrain de Lyon 21-17. Alors au classement, derrière Toulouse, le leader, la section paloise s'empare de la deuxième place à égalité de points avec le Stade français, troisième, l'UBB 4e. Montpellier chute à la 5e place, juste devant Clermont. Perpignan est avant-dernier et Montauban reste Lanterne Rouge.
Un mot de patinage artistique pour rappeler que le couple Laurence Fournier-Baudry, Guillaume Cizeron a été sacré champion du monde de la discipline. Les Français ont décroché leur sacre ce week-end en République tchèque, un mois après leur titre olympique à Milan Cortina. On passe au tennis, on jouait ce matin la finale du Masters 1000 de Miami.
Un duel qui opposait l'Italien Yannick Sinner, numéro 2 mondial, au tchèque Jiří Leška, tombeur d'Arthur Fils, le Français dans le dernier carré. Sans surprise, Yannick Sinner s'est imposé en deux manches, 6-4-6-4. Chez les féminines, la Bélarusse Arina Sabalenka a battu hier l'Américaine Coco Gauff, 6-2-4-6-6-3.
Et en cyclisme, le Belge Jasper Philipsen s'est imposé sur la classique Gent-Wevelgem.
Le Belge qui l'a emporté au sprint. Alors qu'à 30 km de l'arrivée, on pensait que la victoire allait se disputer entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Finalement, Philipsen l'a emporté devant le Danois Tobias Lund Andresen et le Français Christophe Laporte qui complète le podium.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La saison de Formule 1 et le Grand Prix du Japon ce week-end remporté par l'Italien Kimi Antonelli.
Oui, le pilote Mercedes qui a remporté la course pour devenir à 19 ans le plus jeune leader de l'histoire du championnat du monde de la F1. C'est son deuxième succès d'affilée. Toutefois, les Mercedes ne signent pas un doublé ce week-end à Suzuka. En effet, dans une course perturbée par l'intervention de la voiture de sécurité après le crash impressionnant d'Oliver Berman, la McLaren d'Oscar Piastri a réussi à prendre la deuxième place et la Ferrari de Charles Leclerc complète le podium. George Russell sur l'autre flèche d'argent n'arrive qu'en quatrième position. Lando Norris sur l'autre McLaren et Lewis Hamilton sur la deuxième Ferrari complètent le top 6. Belle performance également côté français, signé Pierre Gasly au volant de son Alpine. Il a réussi à se classer 7e en résistant notamment à Max Verstappen dans la fin de la course. Il a enregistré des points sur les 3 premiers Grands Prix de la saison, Pierre Gasly.
C'était une longue course, je dois dire, avec beaucoup de pression. Au début de la course, j'étais assez à l'aise avec les médiums. Mais je savais que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de safety cars. Donc je savais que ça allait arriver à un moment donné. Et deuxième partie de course, c'était un peu différent. Il a mis énormément de pression tout au long de la course, donc il a fallu j'ai dû vraiment me concentrer pour essayer d'être aussi rapide que possible. Il n'y avait pas de gestion avec ses pneus et de commettre aucune erreur parce que il était très très proche d'arriver à rester assez proche. Donc, il était un poil mieux sur les pneus durs que nous. Mais bon, au final, on a réussi à le garder derrière et à aller chercher cette 7e place.
Elle est toujours du côté des pilotes français. Esteban Ocon a réussi à terminer 10e. Isaac Hadjar sur Red Bull a lui fini à la 12e place. Désormais, après l'annulation des courses dans la région du Moyen-Orient, vous le savez, en raison du conflit, le prochain Grand Prix de F1, ce sera seulement dans un mois, le week-end du 3 mai. Ce sera à Miami, aux États-Unis.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, restons au chapitre des sports mécaniques avec le Grand Prix des États-Unis. Cette fois, c'était de la MotoGP.
Et la passe de 3 pour Marco Bezzecchi, qui a remporté les 3 manches de cette saison. Il a devancé son coéquipier Jorge Martin, vainqueur de la Sprint Race la veille. Pedro Acosta sur KTM complète le podium. Côté français, Fabio Quartararo au guidon de sa Yamaha a fini à 17e. Juan Zarco, lui, qui avait réussi à se classer 9e de la sprint, a dû abandonner après une chute. Beaucoup de déceptions, évidemment, pour le pilote Honda.
Déception, c'est sûr. Après, c'est la course, hein, et des fois, il faut prendre des décisions. Et des fois, ça passe pas bien. Ben voilà, course perdue. On tente de redémarrer la moto pour... on se dit, peut-être y avoir un drapeau rouge et refaire un départ. Il n'y a pas eu. Du coup, j'ai fait mes tours et j'ai essayé de prendre des sensations. Je me suis dit, allez, maintenant, la pression, elle est terminée. Le week-end est terminé. Du coup, fais-toi plaisir. C'est une belle piste. T'es sur une belle moto. Il y a eu des choses intéressantes parce que ça reste du boulot pour les ingénieurs à essayer du traction, de la puissance. Mais à un moment, j'ai sorti ce 2-0 sur un moment de course où on se dit, les autres ne roulaient pas plus vite. Et j'ai pas réussi à le répéter. Mais en tout cas, c'est signe que ça peut le faire. Après, il faut comprendre comment le faire et le refaire et le refaire.
C'est tout le meilleur qu'on espère pour Juan Zarco, évidemment. Alors, au classement du championnat du monde, après ce Grand Prix des États-Unis, les Ducati sont aux avant-postes. Marco Bezzecchi, leader devant Jorge Martin et Pedro Acosta est troisième. La prochaine course, ce sera dans un mois maintenant. Les pilotes mettront le cap sur les Grands Prix d'Europe.
Le sport en Calédonie, dans un instant, les résultats du week-end, mais aussi ce qui nous attend le week-end prochain, notamment la 3e édition du Swim Run Volvic New Calédonie. On en parle avec nos invités dans un instant.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entrepreneur, porteur de projet, vous souhaitez créer, développer, transmettre votre entreprise ou financer vos projets? Rendez-vous à la CCI pour la semaine de l'entrepreneuriat du 31 mars au 2 avril. 3 jours pour structurer vos projets et obtenir des conseils concrets, échanger avec des experts, inspirez-vous de témoignages, participez à des mini-conférences et repartez avec des solutions adaptées. Programme complet et inscription sur www.cci.nc.
L'Infomag continue avec le Village Automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au Village Automobile au BK4 à Nouméa.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite de votre magazine des sports, présenté par Jean-François Baudin.
Dans un instant, nous allons revenir sur le résultat du week-end. Mais avant cela, l'actualité en sportive en Calédonie, c'est aussi un événement à venir le week-end prochain, la 3e édition du Swim Run Volvic New Caledonia, compétition qui va se disputer dimanche 5 avril au lac de Yaté. Et nous en parlons, Mickaël, avec nos invités.
Exactement, dans les studios d'RRB, tout d'abord, Antoine Dalia, bonjour.
Bonjour.
Président, notamment un président de Dynamic NC, organisateur de cette épreuve, et puis un double champion du monde de la discipline, Hugo Tormento, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Qui nous fait le plaisir d'être de retour encore dans nos studios à l'occasion de cet événement. Antoine Dalia, tout d'abord, On va rappeler les grands principes, évidemment, pour les novices. Hein. Maintenant, on commence d'en parler suffisamment en Calédonie, à cette discipline, le swimrun. Voilà, troisième édition et en plus un record de participation attendu. On rappelle qu'est-ce qui fait les ingrédients de ces épreuves qui plaisent. C'est ce qu'on voit année après année.
Oui, bah alors le swimrun, c'est tout simplement l'enchaînement de sections de natation et de course à pied. Et on part d'un point A à un point B, donc c'est-à-dire que pour nager, on n'enlève pas ses chaussures parce qu'on va les retrouver après. Non, là, c'est on nage avec les chaussures, notamment avec des paddles, des pull-boys pour améliorer la flottaison et avancer un peu plus vite. Et puis après, bah, il faut courir avec tout ce matériel-là. Voilà, donc on s'adapte à la nature. C'est-à-dire que si l'îlot est à 500 mètres, on nage 500 mètres. Si l'îlot fait 200 mètres, bah, on court 200 mètres. Voilà, et ainsi de suite, pour aller d'un point A à un point B. Et donc, bah, nous, le swimrun au lac de Yaté, c'est la traversée d'est en ouest du lac. Donc, pour la grande distance, faire un marathon, 42 kilomètres.
Ouais, alors, il y a ce côté d'abord qui s'apparente au triathlon, mais ça va plus loin, ça attire beaucoup plus de public. Ça, c'est vraiment ce côté aventurier avant tout, c'est peut-être ça qui plaît, les gens qui veulent se challenger.
Oui, c'est vrai que par exemple, il y a 2 ans, nous étions 325 au départ, et puis là, on a fait un bond en avant, on est plus de 440. Donc voilà, c'est déjà une belle réussite pour nous au niveau organisation. Et Hugo, par exemple, a participé au dernier entraînement. Il faut savoir qu'on fait quelques entraînements en amont, tous les deux dimanches. Et là, le dernier entraînement, on était 115 au départ. Voilà, donc qui veut vient, même s'ils ne sont pas encore inscrits, les gens, on leur dit venez tester.
Découvrir,
voilà. Et voilà, ben, ça fait une belle émulation et les gens sont heureux. Ben, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà, ça change. Les sections de course à pied sont pas trop longues. On se rafraîchit dans l'eau. Voilà, ça change tout le temps. On recommence à zéro à chaque fois la discipline. Donc, c'est sympa.
Hugo Tormento, d'abord sur cette définition globale de swimrun, vous aviez, bah, chaque fois que vous revenez, vous expliquez vos. C'est à sans faute, vous corroborez ces dires en tout cas.
Complètement, complètement. Et ce que je rajouterais, c'est la beauté de ce sport, c'est que ça se fait à deux, pas seul. Et donc du coup, on est en équipe et donc c'est pas un relais, hein, c'est vraiment on est en équipe du début jusqu'à la fin. Et donc on s'entraide du début jusqu'à la fin, dans tous les sens du terme. Hein, on s'entraide moralement, mais aussi physiquement, parce qu'on peut avoir une corde entre nous qui nous permet de nous longer et nous aider. Si jamais, bah, par exemple, il y en a un qui nage un peu plus vite, il peut tirer l'autre dans l'eau. Ou s'il y a un moment, il y en a un qui a un petit peu un coup de mou à pied, il peut se faire tirer aussi pour s'aider à aller plus facilement du point A au point B.
Alors vous-même, pouvoir revenir chaque année ici en Calédonie à l'occasion de cette épreuve, d'abord à chaque fois c'est un dilemme, il y a votre carrière qui continue et également, on le rappelle, donc 2 titres déjà de champion du monde dans cette discipline, ça s'est passé comment à chaque fois? Vous guettez de près à quelle date l'épreuve va être inscrite au calendrier?
Ouais, parce que ça fait un moment déjà que je savais que dès le début, hein, quand Antoine a commencé à avoir l'idée du swimrun, il m'en a déjà parlé, avec d'autres encadrants aussi, où il y a eu l'idée qui a émergé initialement, et puis derrière on est quand même en contact assez régulièrement tout au long de l'année et donc du coup je suis suffisamment tôt au courant de quand est-ce qu'est la course et je m'organise derrière pour que ma saison coordonne parfaitement entre les différents événements et que je puisse être là présent. Pour l'instant, c'est un sans faute aussi, c'est 3 sur 3.
Et alors, justement, il y a ces sessions d'entraînement. Là, bah forcément, ça attire ici les amateurs de la discipline en Calédonie. Vous faites figure un petit peu d'ambassadeur. Il y a beaucoup de gens qui vous questionnent. Comment ça se passe une fois que vous rencontrez tous les pratiquants ici?
C'est incroyable, moi, je trouve, ce que je dis à chaque fois à Antoine. Hein, en France, regrouper autant de monde juste pour un entraînement, ça, c'est compliqué. Ici, on est en Calédonie, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Et il arrive à chaque fois à avoir un nombre d'inscrits et de présents assez, assez incroyable, et il y a de tout niveau. Il y a des gens très confirmés qui savent très bien où est-ce qu'ils sont, il y en a d'autres qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont, pas pourquoi ils y sont, mais ils ont envie de découvrir et de découvrir le lac de Yaté différemment. Et donc c'est une belle émulation, je trouve. Il y a un bon partage et des questions en tout genre, des questions qui sont vraiment de l'ordre de comment on nage.
Tout simplement.
Tout simplement. À des choses qui sont beaucoup plus spécifiques sur comment, sur la discipline, je peux gagner du temps à tel endroit, comment je gère l'énergie, comment je gère le matériel. Non, c'est des trucs beaucoup plus techniques.
Alors Antoine Dalia, voilà ce rendez-vous ici en Calédonie, 3e édition. Et puis ça fait du bien d'avoir un beau plateau avec, donc on a totalisé, ça fera en tout 5 titres de champion du monde qui sont sur cette discipline, c'est bien ça, avec la présence d'Hugo, mais il n'est pas tout seul.
C'est vrai que si je ne me trompe pas, Adriel a 3 titres également, voilà, donc voilà, un beau palmarès déjà en tête d'affiche, et puis après on a un échange qui est mis en place depuis 2 ans, deux éditions maintenant avec Tahiti. Donc nos champions calédoniens, 100% calédoniennes, iront au swimrun de Moréa. et les champions de 2025 de Moréa viennent pour notre édition. Donc voilà, on fait un petit échange, on a aussi quelques Australiens qui viennent, donc c'est ça l'objectif aussi de toucher petits et grands Calédoniens, mais toucher aussi la région.
Hugo Tormento, vous êtes amené à faire des compétitions un peu partout dans le monde. Vous préférez les eaux chaudes ou les eaux froides? Parce qu'il y a, il y a beaucoup de compétitions aussi en Suède, en Norvège, dans des pays nordiques.
Clairement, il y a quelques années en arrière, j'aurais dit directement chaud. Quand j'ai quitté le caillou, je n'étais pas forcément très à l'aise. Là maintenant, froid. Froid parce que c'est plus simple à gérer. Naïvement, en fait, hein, quand il fait froid, tu peux te couvrir pour avoir chaud. Quand il fait chaud, il y a un moment, quand tu as enlevé toutes les couches, il n'y a plus grand-chose à enlever. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et là, d'ailleurs, c'est depuis que je suis arrivé, je trouve qu'il fait très humide par rapport à d'habitude, et donc du coup c'est un bel entraînement aussi pour le reste de ma carrière, parce que c'était une question à côté, et donc le fait de s'entraîner dans des conditions aussi chaudes et aussi humides, ça repousse dans ses retranchements et ça fait des adaptations au niveau du corps qui sont différentes et qui sont très bénéfiques pour la performance.
Alors justement, pendant qu'on est sur ce sujet, où vous en êtes au niveau du circuit mondial cette année, comment ça se passe? Mettez-nous un peu au point sur votre parcours.
Sur le circuit mondial, je pense qu'on fera peut-être les championnats du monde ensemble avec Adriel, le partenaire qui vient ici aujourd'hui sur le territoire. Et à côté de ça, je suis en train de petit à petit me décaler sur le trail et de faire de plus en plus de trail. Et donc je serai présent sur pas mal des étapes du circuit UTMB en Europe.
Un troisième titre de champion du monde en attendant, c'est envisageable ou ça paraît compliqué? Il y a de plus en plus de monde aussi dans le reste du monde qui pratique maintenant.
Il y a de plus en plus de monde, il y a un bon millième de Frenchies qui ont gagné l'année dernière et qui ont gagné d'une très belle manière, en pleine forme, donc on va voir. Adriel s'est encore engagé cette année sur cette course assez incroyable qui s'appelle la Boy Motor Race, qui est une course qui fait 250 km en swimrun, en autonomie, et qui se termine 10 jours avant les championnats du monde. Donc, pour pouvoir récupérer, c'est aussi un beau challenge de ce côté-là, et on va retenter la chose cette année.
Alors, Antoine Dalia, on revient à la Volvic Swimrun de Yatté, au départ de Yatté. On rappelle 4 formats de courses qui seront proposés, évidemment. On a parlé du côté du haut niveau, mais il en faut pour tous les goûts. C'est ça aussi qui permet de continuer de démocratiser la pratique du swimrun.
Oui, on a 2 grandes distances, on va dire, pour les athlètes confirmés. C'est les 2 distances que l'on avait mises en place en 2023 pour la première édition, donc le 42 km, un marathon, ou le semi-marathon, 21 km.
Je me permets juste une petite parenthèse, parce que ce n'est pas forcément que confirmé, et je ne suis pas ça pour faire de la pub, mais ma sœur, qui ne faisait pas grand-chose, s'est mise dernièrement un peu au sport, et qui n'avait pas encore couru plus de 5 km il y a de ça un an, quand elle a su que la nouvelle étape revenait et que je revenais, elle s'est dit bon bah feu, je vais faire le 21, et ça faisait un bon moment qu'elle nageait pas, et elle faisait pas 5 km, vraiment courir 5 km c'était un énorme challenge, et donc là elle s'engage et elle vient faire le 21, et c'est pas la seule à être dans ces conditions là, donc il faut pas forcément être un athlète confirmé, c'est aussi l'avantage de ce sport, comme on jongle entre les deux sports, comme on est deux,
c'est ouvert
et on peut y aller.
Eh ben, on gâtera la performance de la sœur, alors tant qu'à faire, je vous laisse continuer Antoine Dalia.
Pour finir, donc on a le 42 et le 21, et puis après on a normalement le 10 km découverte, que celui-là on peut le faire en duo ou en solo, c'est la seule course qu'on puisse faire en solo, et puis après les kids, donc les moins de 15 ans, de 8-15 ans, voilà, qui on leur fait une petite course après-midi, et comme le disait Hugo, c'est vrai que beaucoup de gens qui se seraient arrêtés normalement aux 10 km, ils se lancent à un vrai challenge en montant sur le 21 km, et ceux du 21, là on bat tous nos records sur toutes les distances en termes de nombre d'équipes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui montent aussi sur le 42. On va voir ce que ça donne.
En guise de conclusion, Antoine Dalia, au vu du succès annoncé pour cette 3e édition, il y a déjà des perspectives. Déjà, vous songez à la suite, évidemment. Comment continuer de développer la pratique?
Moi, je pense que l'année prochaine, on devrait le refaire, bien sûr, mais ça sera déjà changé le parcours. Parce que là, ceux qui l'ont fait 3 fois, le 42 km, ils commencent à le connaître par cœur, ils savent où ça va faire mal ou pas. Il y en a qui m'ont déjà demandé, mais faisant un double marathon, voilà, bon, il y a toujours 2-3 fous. Voilà. Mais j'entends toujours. Et voilà, changer le parcours. Moi, c'est toucher un peu plus l'Australie, parce que les Australiens sont, à part Adriel, qui est Australien, qui vit en Suède, il n'y a pas beaucoup d'Australiens à haut niveau. Et alors qu'on les connaît au niveau de triathlon, qui sont monstrueux, donc le jour où ils s'y mettront, ça fonctionnera bien. Donc l'idée, c'est de les accrocher un peu plus au wagon et faire quelque chose de bien, des échanges comme on peut faire avec Tahiti, Et voilà, les Néo-Zélandais, pareil, qu'on se tire un peu vers le haut et que ça soit un peu plus challengeant encore.
Eh bien, on l'espère. En tout cas, Antoine Dalia et Hugo Tormetto, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi dans le Mac des Sports.
Merci à vous.
Allez, on va poursuivre et terminer ce Mac des Sports avec les résultats. On va commencer par les Calédoniens qui ont évolué hors du territoire, qui ont réalisé de belles performances, Michael.
Oui, tout d'abord en taekwondo. Hein, c'était ce week-end le jeune Calédonien Yorick Orezzoli qui a réussi à décrocher la médaille d'or aux Océania de la discipline. Ça se passait en Australie. Il s'est imposé dans la catégorie des juniors de moins de 63 kilos. En tout, les Calédoniens reviennent d'Australie avec une médaille d'or, mais également 6 médailles de bronze. Sport de combat toujours pour signaler, cette fois qu'en karaté, Kurt Evlakov est sélectionné pour les championnats d'Europe universitaires qui se dérouleront en Albanie. Ce sera en septembre prochain. Le licencié de Dimbéa a récemment décroché, on le rappelle, un titre de champion de France universitaire en combat en moins de 67 kilos. Du cyclisme sur piste en Australie avec les championnats de l'île continent, des jeunes Calédoniens avaient fait le déplacement. On signalera notamment parmi les performances Enzo Martoreggio qui a terminé 16e du Keirin Junior, Chacharet 13e de l'élimination, Raphaël Delatière 15e de la même épreuve, Nino Durand a réussi à se classer 4e sur le 500 mètres, tandis que l'équipe calédonienne avait fini 4e de la vitesse par équipe. Toujours en Australie, on parle karting puisque Raphaël Gilles s'est lui de nouveau envolé, évidemment pour l'île continent. Le jeune calédonien de 12 ans qui rêve de devenir pilote de Formule 1 s'est lancé un défi de taille en 2026, rivalisé avec les Australiens. Il participe depuis le début de l'année au championnat d'Australie et à d'autres courses relevées. Avant son départ, il était dans nos studios, écoutez.
Cette année, on va faire Lake Assee, quelques championnats comme la City of Melbourne, la Golden Power, la Junior Top Gun et la Victorian Kart Championships. J'espère que ça va m'aider pour arriver à mon rêve d'être pilote de F1. Je fais du karting en professionnel.
Ton objectif, tu l'as dit, c'est être champion. Mais là, sur les prochaines courses, est-ce que tu penses qu'aller battre les Australiens, c'est possible chez eux?
Je suis dans le top 10 des Australiens. Ça peut l'être, mais ça va être très difficile. Et il faut que je persévère, il faut que j'apprenne les circuits. Comme ça, il y a peut-être un espoir que j'essaye de battre les Australiens un jour.
Pour être pro, il faut aussi être bon à l'école. Et malheureusement, en étant en Australie, c'est compliqué. Comment tu gères tout ça?
Ma mère m'aide beaucoup dans ce cas-là. J'ai des cours à distance, effectivement, avec mon ordinateur. C'est pas facile, mais on essaye. Et on va voir cette année si ça se passe bien.
Voilà, à peine arrivé en Australie, Raphaël Gilles va s'entraîner plusieurs jours sur le circuit d'Albury-Wodonga entre Sydney et Melbourne. Le week-end du 11 et 12 avril, il participera avec plusieurs dizaines d'Australiens au Victorian Kart Championship. Allez, enfin un petit mot de voile avec deux Calédoniens qui est cette fois avec un équipage français face à l'élite mondiale de Match Race. C'était la Macao Match Race Cup 2026, le quatuor tricolore avec deux cagous, Tom Picot et Yann Rigal, qui a décroché plusieurs victoires, mais qui s'est malheureusement retrouvé éliminé aux portes des quarts de finale pour une pénalité d'un demi-point. L'équipe espère désormais participer à une saison complète du World Tour.
Allez, sur le territoire maintenant, il y avait du badminton ce week-end. C'était la Coupe Arias Pacta de l'AS Magenta. Ça avait lieu à la salle Omnisport de Lanzvatar.
Et on signalera parmi les résultats cette petite révolution quand la jeunesse détrône les habituels champions. C'est assez rare pour être souligné en double mixte. Olympe d'Archeville, 14 ans du club de Magenta, et Maë Sargito, 16 ans du CJI, l'ont emporté en finale contre le duo Johanna Kou-Morgan Paitio. La réaction des vainqueurs du jour.
Franchement, c'était très dur, mais on est très content d'avoir gagné parce que c'était pas un double très facile et ça fait plaisir de gagner contre des gens qui se font pas beaucoup battre.
D'habitude, ils perdent pas et là, on a réussi à les vaincre.
Ça s'est joué à quoi selon vous?
C'est la tactique. On a changé de tactique parce que la première tactique était pas bonne, donc on a changé et ça a marché. Et
on a toujours envie d'être les plus forts pour avoir le plus de chances pour partir et devenir encore plus forts.
Voilà, compétition qui se déroulait sur deux jours à la salle Omnisport de Lanzvata avec plus de 110 participants en lice. Encore des résultats, le Red des Facteurs qui a réuni plus de 310 participants dans le Grand Sud ce dimanche sur le parcours phare chez les messieurs. Victoire de l'équipe composée de Ludovic Lanceleur et Liane Gilquin en mixte. Clémence Gras et Julien Maël l'emportent. En duo féminin, c'est Gaëlle Hautefort et Dominique Lefléchère qui ont été les plus rapides. Et puis il y avait de la boxe ce samedi à la salle Vincent Cafois de Rivière-Salée. Première compétition de l'année sur le territoire, une vingtaine de participants en lice. Christian Toy, le président du comité régional de boxe.
C'est une reprise pour nous sur les compétitions. La première compétition de l'année. Des beaux échanges, des beaux combats et assauts.
On a pu avoir des exhibitions également, des combats d'exhibition. Les jeunes, comme dans toutes les disciplines, voilà, c'est notre motivation, c'est de les emmener en compétition, pouvoir les faire se rencontrer, boxer, par la suite recruter, si possible, les meilleurs. Ceux qui, je parle en boxe amateur, qui veulent se donner davantage et faire jusqu'à des beaux résultats, pour ensuite chercher des déplacements hors territoire. Voilà. On met les bouchées doubles en remettant des compétitions assez régulièrement pour préparer nos jeunes pour les futures compétitions internationales. Là, on a relevé une participation de plusieurs clubs. C'est une bonne chose. Le comité est satisfait. Plus engagés, plus de licenciés qui se sont présentés sur cette compétition. Ce qu'on espère, c'est que par la suite, on puisse avoir davantage.
L'objectif pour le comité régional de boxe est notamment désormais de préparer les Jeux du Pacifique de 2027. Allez, très rapidement, encore quelques résultats du football. Un match en retard de la première journée de Super League. L'AS Magenta qui a battu l'AS Cougnier 1-0. En VTT, le 16 Bouraille a organisé samedi le Grand Prix L'Aigle Roblin. Victoire d'Alix Dudouet devant Jonathan Berger et Chris Jenner. Sandra Gérald finit meilleure féminine devant Jessica Bélinguez. Enzo Berger s'est imposé chez les moins de 15 ans. Le club du monde or de tennis de table a organisé sa coupe d'ouverture Raymond Sens à Boulari. En l'absence de Jérémy Day, parti à la Coupe du Monde de tennis de table avec Maëlys Jirey et Jérôme Morisseau qui a quitté le territoire, eh bien, c'est Laurent Sens qui a fait son retour à la première position dans la division phare, celle des Open Mixed. Et puis, notez déjà pour les pongistes le prochain rendez-vous, le 19e tournoi de l'AS Magenta section tennis de table, le week-end du 11 et 12 avril. Ça se passera à la salle Jean Noyant. Toutes les catégories seront représentées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi prochain.